Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct tous les jours de 15h à 16h. Dans ce studio pour vous accompagner, on retrouve bien sûr le docteur Jimmy Mohamed, fidèle au poste. Bonjour Jimmy.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, un grand dossier du jour consacré à nos cicatrices, qu'elles soient la marque d'une petite coupure, d'une grosse opération ou le souvenir de quelques boutons d'acné. Comment faire disparaître ces marques sur la peau? Nous en parlerons avec le docteur Marie Jourdan, qui est dermatologue à Paris. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aussi à la diversification alimentaire chez les jeunes enfants. À quel moment faut-il introduire les fruits, les œufs, la viande? Y a-t-il des risques d'allergie? Jimmy Mohamed va nous conseiller. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo et vie affective. Aujourd'hui, il sera question des animaux de compagnie qui peuvent parfois perturber les couples. Nous aurons le plaisir de retrouver Catherine Blanc pour en parler.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. On vous apporte les réponses aux questions que vous nous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. La première question, c'est celle d'Imane.
Bonjour Anne, bonjour Jimmy. J'ai remarqué que chaque fois que je mangeais un kiwi, j'avais la langue qui me brûlait et j'aurais aimé savoir à quoi c'est dû. Est-ce que vous pensez que finalement je suis allergique? Merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, la langue qui brûle, ça peut être le signe d'une allergie au kiwi?
Oui, vraiment, ça peut s'intégrer dans ce qu'on appelle un syndrome d'allergie orale. Tout le monde connaît les symptômes d'allergie classique, vous avez l'urticaire, vous gonflez, ça gratte. Mais en revanche, vous pouvez avoir simplement des petits signes qui sont très discrets, qui surviennent toujours pour les mêmes aliments. Le kiwi fait partie des aliments qui peuvent donner des allergies fréquemment. Donc vous pouvez avoir des démangeaisons, des petites piqûres,
un palais
La lèvre qui gonfle est un critère un peu plus alarmant, mais ça peut picoter. Et vous pouvez avoir les mêmes symptômes avec un nez qui coule. Tout d'un coup, vous avez une espèce de rhinite, comme si vous étiez allergique au pollen.
D'accord.
Alors c'est un aliment qui vous déclencha, pas de panique. En règle générale, vous ne faites pas de réaction sévère. La réaction anaphylactique la plus grave a lieu dans 1% des cas. Mais dans 10% des cas, ça peut se manifester par des signes un peu plus brillants. Donc il ne faut pas négliger ce symptôme.
Et alors c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de manger les mêmes fruits?
Alors on peut faire une enquête avec des tests. On appelle ça des prick tests, des tests dermatologiques. On va vous prendre en gros un petit peu de chair de kiwi qu'on va vous mettre sur la peau. C'est très sensible, c'est-à-dire qu'on a très souvent une réponse, mais le problème, c'est que ce n'est pas très spécifique. Si vous réagissez de façon positive, eh bien ça peut être une allergie au kiwi ou à d'autres composants, puisqu'il y a des allergies croisées, donc ce n'est pas forcément le meilleur test, mais peut-être qu'effectivement, vous êtes vraiment allergique.
Alors, on sait qu'en Europe, les allergies alimentaires progressent. Elles touchent 6% des enfants, 3% des adultes. Elles peuvent se déclencher à l'âge adulte, alors qu'on n'était pas allergique auparavant.
Oui, souvent, elles ont lieu quand même dans l'enfance, mais effectivement, on peut être allergique à tout âge. Alors, c'est vrai que si à 70 ans, tout d'un coup, vous avez une allergie à la pomme ou aux cacahuètes, c'est un peu étrange. Mais elles sont en augmentation. Alors, on pense qu'il y aurait une théorie hygiéniste, on serait trop propre, on ferait trop attention. Raison pour laquelle il y aurait peut-être un peu plus d'allergies. Mais souvent, c'est dans l'enfance qu'on détecte une allergie, que ce soit au kiwi ou à d'autres aliments.
Et alors, on parle parfois d'allergies croisées. Le fait d'être allergique au pollen, par exemple, ça peut donner des allergies à des fruits.
Exactement. Et d'ailleurs, dans les symptômes que décrit cette dame, le fait qu'elle ait simplement cette petite réaction orale, c'est souvent lié au fait que les protéines vont être digérées par le tube digestif et vont donner une moins grande allergie, moins grande sensibilité. En revanche, il y a ce qu'on appelle des allergies croisées, puisque les structures de certaines protéines contenues dans le kiwi, par exemple, vont avoir un peu la même forme, la même taille, le même aspect que les autres pollens. Raison pour laquelle vous pouvez avoir aussi le nez qui coule et faire ce qu'on appelle ces allergies croisées. Et enfin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le syndrome d'allergie par le baiser. Si jamais vous êtes allergique au kiwi et que vous embrassez quelqu'un qui a mangé un kiwi, vous pouvez aussi déclencher les mêmes symptômes d'allergie.
C'est fou.
C'est pas une maladie contagieuse, mais ce sera la faute de votre partenaire.
Merci Jimmy. On a une autre question d'auditeur qui nous a été laissée sur le répondeur, c'est celle de Maxence.
J'ai un œil qui bouge tout seul depuis quelques jours. Des collègues au travail m'ont dit que c'était un manque de magnésium, selon eux. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, l'œil qui bouge ou la paupière qui tressaute, ça nous est tous arrivé?
Oui, c'est des petites fasciculations, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. C'est des mouvements involontaires, incontrôlés, non douloureux, qui n'ont quasiment aucun impact. On peut survenir au niveau de la paupière ou ailleurs, et c'est sans grande conséquence en général.
Il y a des facteurs qui favorisent ce tressautement de la
paupière? Oui, on aime bien dire la carence en magnésium, ça fait plaisir à tout le monde. Alors le magnésium, c'est vrai que c'est important, mais pour des raisons encore plus importante que celle qu'on peut soupçonner. Alors, ça a une importance dans la prévention des crampes musculaires. Si vous avez des crampes à répétition, vous pouvez manquer de magnésium. Mais on sait que le magnésium a un rôle très important dans la neuroprotection. Lorsqu'une femme fait, par exemple, ce qu'on appelle une pré-éclampsie, c'est un événement lié à la grossesse, pour protéger le cerveau du fœtus, on met du sulfate de magnésium en neuroprotection. Donc, c'est un élément qui est très indispensable à la survie. Les carences sont rares, vous pouvez l'avoir dans le cadre de malabsorption, lorsque vous avez des maladies du tube digestif, où certains médicaments vont perturber l'absorption de magnésium, comme les médicaments qu'on prend contre le reflux, contre l'estomac.
D'accord.
Le diabète déséquilibré peut entraîner ça. Donc, les causes de carences en magnésium sont rares et ne sont souvent pas liées à notre alimentation, même si ça fait plaisir à tout le monde de prendre un peu de magnésium de temps en temps.
Et pour expliquer la paupière qui tremble, on parle aussi parfois du manque de sommeil, de l'excès de caféine.
Exactement. Trop de stimulation, trop d'excitants peuvent éventuellement donner ces petites fasciculations. Le manque de sommeil, vous l'avez dit. Par contre, il faut être vigilant si jamais vous avez d'autres groupes musculaires qui vont avoir ces petits tremblements, ces petites fasciculations, notamment les muscles de la langue ou au niveau des côtes. Ça peut être révélateur d'une maladie de Charcot, une sclérose latérale amyotrophique,
d'accord,
qui est une maladie assez rare et grave. Mais dans ces cas-là, c'est déclenché par le froid et par la percussion. Donc évidemment, si vous avez des contractions musculaires un peu bizarres, allez voir votre médecin. Au moindre doute, vous avez un bilan sanguin. Et puis si besoin, vous êtes orienté vers un spécialiste. Mais encore une fois, pas lieu de s'inquiéter, on a tous ces petits symptômes. N'allez pas courir chez le neurologue en disant « j'ai entendu le docteur Mohamed, il m'a dit que j'avais un truc grave ». Non, tout va bien, allez voir le médecin traitant.
Merci Jimmy. Alors si vous aussi comme Maxence, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39 21 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis ravie de vous accompagner dans cette émission Santé et bien-être aux côtés du docteur Jimmy Mohamed. Et dans ce studio, nous accueillons aussi aujourd'hui une dermatologue. Bonjour docteur Marie Jourdan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. On va parler avec vous de notre peau et des techniques pour gommer les cicatrices. Alors d'abord, si on regarde la définition de la cicatrice dans le dictionnaire, on lit que c'est une marque laissée par une plaie après la guérison. La cicatrice fait partie de la guérison ?
Ah oui, la cicatrice, elle est tout à fait normale, sauf si la plaie ne concernait que le dessus de la peau, l'épiderme. Auquel cas, une éraflure peut ne pas laisser de cicatrice. Mais si la plaie est allée jusqu'au derme, inévitablement, la réorganisation de la peau va entraîner une marque visible.
Alors, il n'y a pas une cicatrice, mais des cicatrices, puisque ça dépend de ce qui s'est passé. Une brûlure, une coupure, un chirurgien qui vous fait une entaille, bah, ça ne donne pas toujours la même cicatrice.
Bah, en fait, visuellement, il va y avoir plein de cicatrices différentes. Mais dans tous les cas, c'est toujours un remodelage particulier. La peau, elle a fait son rôle. Elle a vite paré au plus pressé, c'est-à-dire empêcher les corps étrangers de nous attaquer. La peau, c'est une barrière, c'est notre frontière. Donc ça, c'est un organe vital, d'ailleurs, on ne le dit pas assez. Mm-hmm. Elle a joué son rôle. Après, la manière dont elle a réorganisé va effectivement dépendre de la cause, des tensions, va dépendre de plein de choses.
Comment se passe la cicatrisation ? Il y a combien de phases ? Parce qu'on voit bien qu'une plaie évolue, elle devient rouge, parfois ça démange un peu. C'est quoi,
oui,
les phases ?
Bah, je pense que pour être pédagogique, on peut parler des phases visibles, en fait, mm-hmm, parce que sur le plan histologique, on peut même en décompter 12 des phases. Mais en gros, il y a une phase de détertion, c'est-à-dire de défense. Mm-hmm. Le corps va éliminer, il va y avoir une inflammation, le système immunitaire va éliminer les corps étrangers, les bactéries, etc. Le sang va coaguler en même temps. Ensuite, il y a une phase de réparation où là, les cellules vont se multiplier pour venir fermer la plaie. Et ensuite, une phase beaucoup plus longue qui est la réorganisation de la peau, le remodelage. Et c'est celle-ci qu'on attend avec impatience pour savoir quelle cicatrice on va avoir.
Parce qu'on ne cicatrise pas tous de la même façon.
Ah, il y a des facteurs différents. On est très inégaux face à la cicatrisation. Il y a des facteurs liés à l'ethnie, par exemple. On sait que dans les populations noires, il y a une prédisposition génétique à faire des cicatrices particulièrement hypertrophiques et grosses qu'on appelle des kéloïdes. Enfin, c'est seulement 16% en gros de ces populations. Et puis, il y a un contexte génétique particulier et aussi médical, c'est-à-dire le diabète, la prise de certains médicaments comme les corticoïdes, et puis la localisation de la plaie aussi. Est-ce que c'est sur une zone de tension ? Est-ce qu'elle est exposée au soleil ? Et puis l'âge qu'on a, est-ce qu'on est un enfant, est-ce qu'on est un adulte, tout ça va jouer un rôle.
On cicatrise mieux dans la jeunesse.
Surtout, même en très très jeune, bébé, voire même la meilleure cicatrisation serait la cicatrisation fœtale, celle
c'est-à-dire
qu'on provoquerait chez un fœtus alors qu'il est encore dans l'utérus de sa mère. Ça, c'est un process qui n'est même plus de la cicatrisation, c'est carrément de la régénérescence. Et là, on n'a pas de cicatrice.
Est-ce
Non, c'est passionnant, Jimmy. Parce que cette cicatrice étale, je n'avais jamais entendu, mais parfois, après une petite plaie, eh bien, ça cicatrise, mais ça gratte. Les patients se plaignent justement qu'on a l'impression que c'est un peu sec. Est-ce que c'est normal quand ça arrive?
Oui, les sensations étranges dans une cicatrice, il y en a plusieurs. Elle peut tirer, elle peut même empêcher certains mouvements s'il y a des adhérences au plan profond. Et puis de temps en temps, elle chatouille ou elle gratte ou même elle fait mal. Et là, on est souvent plutôt dans la phase inflammatoire. Elle est encore en train de se réparer, ça travaille. Et donc, c'est presque normal, parce qu'il y a un phénomène inflammatoire. Maintenant, si ça dure trop longtemps, ça veut dire que la phase inflammatoire dure trop longtemps. Et en général, plus la phase inflammatoire est longue, plus la cicatrice risque de ne pas être jolie. Ou alors, autre possibilité, c'est tout simplement le phénomène de cicatrisation des neurones, qui est normal, hein, les neurones aussi, ils ont été coupés dans la plaie, donc il faut qu'ils se réparent. Et ces petits processus de cicatrisation peuvent faire mal. Souvent, ces neurones, quand ils se réparent, ils sont très très sensibles à plein de stimuli et on se retrouve avec des douleurs, à une hypersensibilité en fait, de la cicatrice.
Il y a des médicaments ou des maladies qui peuvent rendre la cicatrisation plus difficile?
Les médicaments, oui.
Ou améliorer, on peut dans un sens.
Imaginez les corticoïdes, surtout quand ils sont pris par la bouche, à forte dose, tout simplement parce que la phase inflammatoire, elle est utile. Il faut une inflammation pour défendre le corps et faire un appel de petits soldats. Quand il y a une inflammation, on appelle plein de cellules à la rescousse. C'est utile. Si on prend des anti-inflammatoires comme les corticoïdes, immunomodulateurs, on a une baisse du système immunitaire, mais là, en l'occurrence, on en avait besoin. Donc, dans ce cas, on va se retrouver avec des cicatrices souvent beaucoup plus... Déjà, la cicatrisation va être plus longue. Et puis, la cicatrice va souvent être atrophique, très fine, très brillante.
D'accord. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait certaines cicatrices qui engendraient même un gène fonctionnel qui empêcherait de faire certains mouvements.
Exactement. Si la plaie est une jointure, par exemple, à une articulation, et que la cicatrice est un petit peu fibrosée, sclérosée, qu'elle se rétracte sur elle-même. Et bien, dans ce cas, par exemple, au pli du coude, on aura du mal à étendre le bras comme il faut. Il y a aussi des cicatrices qui peuvent, même si elles ne sont pas à une jointure, avoir une adhérence au plan profond. Et du coup, à certains mouvements, on va sentir que ça tire, etc. Même après une césarienne, il arrive que la cicatrice soit collée au plan profond et que la maman elle a du mal à bouger ensuite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis heureuse de vous accompagner dans cette émission Santé et bien-être jusqu'à 16h avec nous en studio aujourd'hui le docteur Marie Jourdan qui est dermatologue à Paris et qui est aussi spécialisée dans le laser à visée esthétique et réparatrice. Avec vous docteur Jourdan, on s'intéresse aux cicatrices et à leur prise en charge. Alors on va parler des soins qu'on peut appliquer sur la peau. Alors avant cela, quand on se fait opérer déjà, est-ce que le type de suture faite par le chirurgien peut déjà avoir une importance par rapport à la cicatrice?
Oui, ça, c'est vrai qu'on le sait depuis longtemps. Le but est de diminuer les tensions sur la cicatrice. En fait. Donc maintenant, quand en tout cas la chirurgie est tranquille et prévue et pas faite en urgence, ils vont effectivement ajouter des fils en dessous. Des fils profonds, en fait, pour diminuer les tensions à la surface.
D'accord.
Et puis après, le type de fil aussi, résorbable, pas résorbable, on a quand même l'impression que ça peut jouer. Mais c'est un petit peu imprévisible et ça dépend des patients. Donc, c'est difficile à prévoir.
Vous en parliez tout à l'heure, lors de la césarienne, est-ce que le gynécologue peut faire justement des points particuliers pour limiter cette cicatrice qui, parfois, peut être un peu visible et pas très esthétique, au dire de certaines femmes?
En fait, j'ai remarqué que les patientes, quand elles viennent avec une cicatrice disgracieuse, elles en veulent souvent au chirurgien, alors qu'en réalité, même si aujourd'hui tout est fait dans les règles de l'art de manière générale, il y a quand même une grande variabilité interindividuelle. On ne peut pas prévoir. Et puis, il y a aussi tous les mouvements. Voilà, on s'est levé, on a porté son bébé. Donc, il y a des tensions qui vont interagir. Et peut-être des soins pas tout à fait faits comme il fallait, etc. Donc il y a trop de facteurs, si vous voulez. Il y a trop de facteurs pour dire que c'est la manière dont ça a été suturé.
Alors, on va parler du traitement laser avec vous tout à l'heure. Mais déjà, basiquement, est-ce qu'il y a des soins, des crèmes qu'on peut appliquer sur une cicatrice pour qu'elle évolue bien?
Alors, si on sort du domaine de la cicatrisation, parce que oui, on aura mis des crèmes, des pansements, tout ça, pour que la cicatrisation se passe bien. Une fois que la cicatrice est là, on peut dire qu'en phase inflammatoire, donc finalement... Après une semaine, on est encore dans la phase inflammatoire, c'est encore un peu rouge, etc. On aime bien appliquer des gels de silicone, des gels très lourds de silicone, qui n'ont que de la silicone d'ailleurs, pour venir de manière en fait mécanique, mais presque biochimique, filmer, étouffer la cicatrice et éviter qu'elle devienne hypertrophique. Donc c'est un petit geste préventif.
Ça permet de la lisser en fait?
Ça permet d'éviter qu'elle boursoufle en fait.
D'accord.
C'est pas du 100%, mais c'est un petit tips qui peut aider. Ensuite, une fois qu'on est sorti de cette phase, qu'on a une vieille cicatrice et qu'on se demande, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ? À part si elle est foncée, pigmentée, à ce moment-là, je dirais oui, pourquoi pas des crèmes dépigmentantes ? Ou alors une cicatrice un peu claire, plus claire que la peau environnante, bah là, il faut conseiller d'aller au soleil. Mm-hmm. On ne le dit pas assez parce que les gens pensent toujours qu'il faut
protéger. Ah oui, on pense que c'est
l'inverse. Alors, je leur répète toujours, la protection solaire, elle a lieu, elle est très intéressante pendant la phase inflammatoire. Mm-hmm. Si la cicatrice rouge est exposée au soleil, elle va pigmenter profondément. Mais si on est sorti de cette phase et qu'on a une cicatrice tout à fait ancienne et qui n'est plus du tout inflammatoire, bah si elle est claire, au contraire, il faut la stimuler par les UV.
Et que pensez-vous des remèdes de grand-mère ? On parle souvent du miel sur une cicatrice. Est-ce que ça aide au processus de cicatrisation ?
Alors là, on est sur la cicatrisation. Alors, c'est quelque chose, figurez-vous, qu'on utilisait d'ailleurs dans l'hôpital où j'étais. C'est encore d'actualité, je veux dire. Le miel, en fait, de manière empirique, on sait que c'est un élément qui est de toute façon, en gros, du fructose, mais qui contient aussi de l'acide formique et des inhibines, des petites molécules, qui viennent en tout cas être bactériostatiques, voire même, elles diminuent la prolifération bactérienne. Donc le côté, finalement, antiseptique va diminuer les attaques sur la plaie et permettre un processus de cicatrisation. En plus, le fait que ce soit très, très riche en sucre va donner un petit côté absorbant. Ça va un petit peu absorber l'exsudat des plaies. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on est vraiment désespéré sur certains ulcères.
C'est-à-dire qu'on
n'est
pas obligé de se ruiner à la pharmacie parce que souvent les parents demandent des pommades cicatrisantes pour les enfants qui ont une petite plaie du visage de peur que ça laisse une trace, et on peut le comprendre. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être pas les remplacer, mais au moins en complément, mettre du miel finalement le soir avant de dormir.
Oui, le premier conseil, c'est vrai que la plaie doit être toujours un petit peu humide. Quand on est parent, on a souvent tendance à tamponner, à mettre sous un pansement sec, etc. En fait, c'est le contraire. En fait, il faut faire macérer. Mais macérer dans un milieu dans lequel on aura d'abord éliminé les bactéries. Donc, on va désinfecter et mettre un corps gras. Le corps gras, ça peut être même de la vaseline, des crèmes lourdes, etc. Ensuite, il se trouve que l'industrie cosmétique a beaucoup travaillé à la recherche pour améliorer, pour optimiser, pour, par exemple, accélérer la colonisation de la plaie, du trou, par les cellules de la peau, pour que ça se referme plus vite. Donc après, c'est la guerre de qui va faire recoloniser le plus vite, etc. Donc évidemment, il y a quand même des principes actifs qui marchent, mais effectivement, ils ne sont pas indispensables.
Le fait de masser une cicatrice, ça peut aussi aider ?
Alors si on la masse précocement, par exemple, je pense à une cicatrice chirurgicale, en fait, ça peut aider. Il faut par contre avoir vraiment l'habitude pour ne pas exercer de tension dessus et risquer de l'élargir. On peut masser très précocement pour diminuer l'œdème autour. On diminue l'infiltration en eau, on diminue donc la tension parce que cet œdème, il vient gorger toute la peau environnante et ça peut tirer un peu sur la plaie. Donc ça, c'est un massage hyper précautionneux, voire même prescrit chez le kiné. Mais une fois que la cicatrice, elle est sortie de la phase inflammatoire, on peut la masser pour libérer un peu les adhérences, par exemple, pour la décoller un peu du plan profond. Et ça peut aider aussi.
On a aussi des patchs. Ça, c'est plus récent.
Oui, les patchs, ça reprend le concept de silicone. Phase inflammatoire, c'est un petit peu boursouflé. Tiens, ça reste rouge, ça me gratte. Soyons prudents, on va mettre du silicone dessus, que ce soit en gel ou que ce soit en patch. Et cette pression du silicone sur la cicatrice de manière continue va diminuer les vecteurs de tension, mais de manière absolument microscopique, hein, c'est vraiment de la biophysique, et donc diminuer le risque d'une hypertrophie, d'un emballement de la cicatrisation.
C'est passionnant. Vous restez avec nous, docteur Jourdan, parce qu'on va parler du recours au laser, et ça, c'est votre spécialité.
Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous écoutez Europe 1, jusqu'à 16h, nous prenons soin de votre santé et plus particulièrement aujourd'hui de notre peau. Comment faire disparaître de vilaines cicatrices ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Marie Jourdan, dermatologue à Paris, spécialiste du laser à visée esthétique et réparatrice. Le laser pour gommer les cicatrices, justement, est-ce que ça fonctionne dans tous les cas ?
Oh, on va jamais dire dans tous les cas, mais en tout cas, c'est rare de ne rien pouvoir faire. On peut aussi associer le laser à d'autres possibilités, comme une reprise chirurgicale, quand on pense que c'est suffisamment petit et que la cicatrice, par exemple, ça a été très mal recousu ou quoi, pourquoi pas faire une reprise ? Et puis, pourquoi pas utiliser des crèmes dépigmentantes, utiliser des corticoïdes pour diminuer les cicatrices un peu en relief, etc. Mais après, effectivement, il y a les solutions laser qui apportent beaucoup de solutions.
Et après le passage au laser, la cicatrice ressemble à quoi ?
Alors ça dépend de à quoi elle ressemblait avant. Par exemple, le laser, si vous voulez, c'est des machines qui vont cibler quelque chose de précis dans la peau et souvent par rapport à la couleur. Donc si on a une cicatrice rouge, pourquoi pas se tourner vers des lasers qui ciblent le vasculaire, le rouge. Et puis si la cicatrice est mal, par exemple, brillante ou atrophique ou a un problème de structure, on peut aller travailler avec des lasers qu'on appelle des lasers de remodelage qui vont travailler à la réorganisation de la peau. Dans ce cas, la cicatrice aura l'air vraiment plus floue, en fait. Ça va flouter la cicatrice, ça va l'intégrer plus au tissu environnant. Et du coup, elle aura l'air beaucoup moins déchiquetée, beaucoup moins récente. Elle aura l'air beaucoup plus ancienne.
Lisse, en fait.
Exactement.
Et au bout de combien de temps on peut aller faire traiter une cicatrice? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard? Une vieille cicatrice, il y a 10, 15, 20 ans, est-ce que ça vaut le coup, si elle nous gêne, de venir la traiter au laser?
En fait, on a souvent cette question, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas du tout de délai, en fait. On peut prendre en charge une cicatrice 20 ans après, ça ne pose aucun problème. Ça ne va pas du tout moins bien réagir au laser. Donc, il n'y a aucun souci.
Et à contrario, inutile de se précipiter si jamais on tombe de trottinette, on se fait une petite plaie du visage, et de se dire, oh là là, ça va laisser une mauvaise cicatrice. Quel délai il faut attendre avant de se dire, tiens, là, c'est peut-être le moment de passer au laser?
Contrairement à ce que tu penses, Jimmy, il y a des nouvelles études qui montrent que le laser précoce est extrêmement intéressant. Cette fois-ci, non pas pour améliorer la cicatrice, mais pour accompagner le phénomène de cicatrisation, pour optimiser la cicatrisation. Le laser va ici plonger la peau dans un travail de remodelage, alors même qu'elle est en train de s'organiser.
Avant même de retirer les sutures avant...
Le mieux, c'est le jour où on retire les fils. Au retrait des fils, on peut passer un laser assez profondément de remodelage. On peut le refaire un mois plus tard si besoin. Et on se rend compte que dans ces cas-là, les cicatrices sont beaucoup plus jolies.
Mais ça veut dire que si on se fait opérer, il faut carrément anticiper le rendez-vous chez le dermatologue ou...
Il y a beaucoup de chirurgiens plasticiens qui commencent à connaître cette démarche. Il y a même d'ailleurs un industriel qui s'est penché sur la question, parce qu'il y a désormais un laser qui est accessible à des chirurgiens plasticiens, parce que c'est une spécialité qui est plus intéressée par la rançon esthétique de ce qu'ils font. Ils proposent un laser qu'ils vont faire directement au bloc opératoire. Alors là, cette fois-ci, c'est juste après avoir suturé. Parce que là, c'est pareil, on va chauffer le derme, on va plonger la peau dans un message où il faut qu'elle se réorganise et la cicatrisation sera optimale.
Est-ce que c'est comme l'épilation, il faut plusieurs séances de laser avant que ce soit efficace ou une peut suffire et combien ça coûte?
Une peut suffire, ça dépend de la taille de la cicatrice pour le coût, mais on est entre 200 et 350 euros, je dirais, ce type de prise en charge précoce. Et puis, justement, ça me fait penser à une étude rigolote qui avait été faite en Hollande, puisque la professeure qui avait remarqué que ce phénomène de faire du laser précocement était plus intéressant s'est même amusée à faire le laser la veille de la chirurgie. On plonge la peau dans un message de cicatrisation. Le laser ici de remodelage, c'est un laser qui fait des microscopiques blessures thermiques à la peau. La peau va avoir des messages comme quoi il faut qu'elle se répare. Elle va être dans un mood...
Elle se prépare à l'incision.
Exactement.
En fait.
Elle est déjà en train de se réparer avant même qu'on l'incise. Et elle a montré dans son étude que alors là, c'était carrément encore mieux.
Est-ce que c'est douloureux tout ça? Est-ce que ça se fait sous anesthésie locale?
Oui, c'est une anesthésie locale. En fait, on dispose souvent dans les centres laser de crèmes anesthésiantes très très dosées, qui sont 30 fois plus dosées que les crèmes habituelles qu'on utilise en pédiatrie, par exemple. Et souvent, ça suffit. Si ça ne suffit pas, on peut faire des petites injections d'anesthésiant, mais c'est tout à fait supportable.
Il y a une prise en charge par la Sécurité sociale?
Ça dépend du contexte de la chirurgie, de la cicatrice. Mais pour être très honnête, la cotation de la Sécurité sociale à ce niveau-là est souvent très inférieure à ce que ça coûte au médecin d'utiliser son laser.
Donc c'est un petit investissement, mais ça vaut le coup.
C'est ça.
Merci beaucoup, Dr Marie Jourdan, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 16h et tout de suite, c'est notre séquence consacrée à la santé du quotidien. On parle aujourd'hui de la diversification alimentaire. C'est souvent le casse-tête des jeunes parents. Notre journaliste Benjamin Lévesque a pu s'en rendre compte en promenant son micro dans la rue.
Diversification alimentaire.
Alors, la diversification alimentaire, c'est le fait de manger de manière variée, donc pas que des pâtes.
Ah ben, c'est toutes les familles d'aliments à table.
Je pense que, pour moi, ça veut dire que vous avez des gens qui sont végétariens, véganes, carnivores.
Ça commence vers 4 mois, il me semble, qu'on commence à diversifier.
Alors, ça commence timidement à partir de 3 mois, où on introduit, si je ne m'abuse, une cuillerée de jus d'orange et puis une petite cuillerée de purée... quelque chose d'assez neutre comme la carotte. La viande, ça intervient un peu plus tard. Je me demande si c'est pas vers 6 mois.
Dès qu'il y a des dents, je pense que c'est là que, justement, c'est fait en sorte que le corps montre visuellement, physiquement, que le corps est prêt à mâcher et à ingurgiter d'autres aliments que, justement, le lait.
Alors Jimmy, la diversification alimentaire, c'est quoi et ça commence à quel âge?
Alors, il y a de bonnes réponses, il y a un peu d'anarchie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 4 mois, l'enfant ne sait que digérer le lait. Donc, il faut éviter d'introduire avant. Alors, après, à partir de quel âge on introduit? Il y a des débats entre 3 et 6 mois. Ça dépend des ethnies, ça dépend des pays. Et ce qu'on sait, c'est que le lait doit aussi faire partie intégrante de l'alimentation jusqu'aux 3 ans.
D'accord. Juste de Donc 6 mois. Tout ça en parallèle.
Exactement. De 6 mois à 3 ans, l'enfant a besoin de 500 ml de lait en complément de tout ce qu'on peut lui donner à côté dans la diversification.
Et alors pour la diversification, on commence par quels aliments ? D'abord les fruits, les légumes, la viande, les œufs ?
D'abord les légumes, avec de préférence des aliments qui sont faciles à digérer, des carottes, des haricots verts, des épinards, des courgettes sans pépins et sans peau. Et puis on peut petit à petit passer à des choses un peu plus importantes, comme de la viande ou du poisson vers 6 mois. On donne environ 2 cuillères à café, ça fait 10 grammes. Et on augmente progressivement à 20 grammes par jour. Et puis, on peut rajouter...
Alors, tout ça bien haché, évidemment.
Voilà, bien mouliné. Ça dépend quand ils n'ont pas dedans. Il faut que ce soit bien, bien mouliné. Et puis, rajouter un peu de matière grasse. J'aime bien l'huile de lin et l'huile de colza, qui est riche en oméga 3 et en DHA. La DHA, ça permet de créer la structure cérébrale et un peu de la matière grise. Donc, c'est des compléments qu'il faut rajouter. Mais s'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que la diversification, c'est à la cool.
C'est à la cool. Et alors, si l'enfant n'est pas curieux gustativement, voilà, qu'il n'aime pas les bonnes purées qu'on a préparées, que fait-on ? Que dit le père de famille et le médecin que vous êtes ?
D'abord, on lâche prise. C'est une angoisse des parents. Au début, la diversification, c'est de s'amuser, c'est de goûter. Une petite cuillère par-ci, une cuillère par-là, ce n'est pas grave s'il refuse. Et s'il n'aime pas, vous passez à un autre aliment. Jamais d'urgence sur le sucré. Ça fait toujours plaisir de donner une compote de pommes à un enfant. Il n'y a aucun intérêt à en donner une avant très longtemps, puisque le sucre, ça passera forcément. Leurs papilles gustatives ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils vont avoir une explosion en bouche. Évidemment qu'ils vont accepter le sucré, mais pour le salé, ça va être plus difficile.
Donc, vous êtes fier de la compote d'épinards, de la purée d'épinards.
La purée d'épinards plutôt que la compote de pommes, c'est plus difficile. Donc, laissez-les tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent manger, tant mieux. S'ils mangent moins bien, c'est pas grave. Vous reproposez. D'ailleurs, dans le carnet de santé, vous avez une page consacrée à la diversification alimentaire qui vous dit exactement à partir de quel âge on peut introduire les œufs. C'est un peu plus tard que le poisson ou la viande. À quel âge on peut commencer à donner un peu plus de féculents pour le poids. Et souvent, les parents demandent en consultation des espèces de recettes, 150 grammes, 200 grammes. On ne se casse pas la tête. On vérifie que l'enfant, il prenne du poids, qu'il est sur la bonne courbe de croissance. Et on commence d'abord par le midi. Exactement.
Très bien. Et au moment de la diversification, il peut y avoir aussi l'apparition d'allergies alimentaires. Comment est-ce qu'on les repère ?
Oui, souvent, il y a des intolérances. La plus fréquente, c'est l'intolérance aux protéines de lait de vache. Et dans ces cas-là, un enfant, lorsqu'il a du lait, il va avoir de la diarrhée. Il va parfois avoir un reflux très important, de l'asthme incontrôlé, une dermatite atopique, de l'eczéma. Et surtout, il y aura une cassure de la courbe de croissance. L'enfant va prendre moins de poids, moins grossir, moins grandir. C'est un signe d'alarme que les pédiatres savent repérer. Et derrière, il y aura une enquête pour savoir à quoi l'enfant peut être allergique.
Merci Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes ensemble depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, nous avons une question de Kéliana. On l'écoute.
Bonjour. Je me pose une question et j'aurais besoin de vos conseils. J'ai rencontré un homme que j'apprécie. Petit problème, il a un chien qui passe avant tout, d'ailleurs avant moi. Enfin, c'est un amour fou que je ne comprends pas vraiment. Un exemple, on ne peut même pas partir en week-end sans le laisser. Enfin, c'est comme un enfant. Et j'en ai vraiment marre qu'il passe avant tout et qu'il monopolise toute notre vie entière. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je dois lui en parler ou est-ce que je dois garder ça pour moi ? J'ai besoin de votre avis.
Catherine Blanc, qu'en pensez-vous ?
Alors, je crois que déjà, elle a fait un parallèle qui est un parallèle intéressant, c'est que c'est comme un enfant.
Comme un enfant.
Et je pense que cette question qui peut paraître assez curieuse, qu'est-ce que vient faire un chien en plein milieu d'un couple à tel point qu'il déstabilise la belle, je crois que c'est exactement ce qui se joue aussi dans les couples dits normaux, où il y a des enfants avec qui, du coup, attirent l'attention sur eux de façon majeure jusqu'à délaisser un des deux partenaires, généralement les mamans laissant les maris un peu sur la touche, tellement préoccupés par les enfants qu'on ne peut pas quitter, on ne peut pas partir en week-end, on ne peut pas faire des tas de choses. On s'arrête dès lors qu'il y a un bruit, un chuchotement, un murmure, un pleur. Et bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que ça nous paraît curieux parce que c'est un chien. Oui. Or, c'est des choses d'un point de vue affectif qui peuvent être de même ordre, c'est-à-dire vraiment un sentiment qu'il vit là-dedans dedans, une sorte de paternité, comme si ce chien était presque, j'allais dire, un double de lui-même, avec une responsabilité majeure, telle que finalement, qu'il est déjà sa source aussi de plaisir, peut-être de sécurité, puisqu'il a créé ce lien particulier avec cette fidélité absolue de l'animal vis-à-vis de lui, et que finalement, beaucoup plus de sécurité que ce ne serait dans le cadre du couple, et donc une contrepartie nécessaire qui vient encombrer la relation.
Jimmy ?
Donc ça veut dire qu'elle passe vraiment au second plan, là, parce que je peux comprendre son attachement, mais au bout d'un moment, s'il est en couple, peut-être non pas équilibrer les choses, mais là, de se dire que même le temps d'un week-end, il est obligé de l'emmener avec lui, enfin, c'est problématique, non ? Elle passe du coup vraiment au deuxième plan.
Alors oui, alors après, il faut le voir aussi de son côté à elle, parce que l'idée de passer en second plan, ça pose la question de pourquoi elle passe en second plan. Elle n'est pas un chien, donc elle n'a pas à comparer les choses. Mais elle se vit dans une relation de rivalité, ce qui pose peut-être la question de sa lecture des relations en général dans la triangularité. Qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était enfant ? Comment a-t-elle partagé sa maman avec son papa ou ses parents avec un frère ou une sœur qui se rejoue à cette occasion et qui fait qu'elle est particulièrement épidermique ? Parce qu'à partir du moment où l'on voit le côté fusionnel d'un homme avec son chien et peut-être le côté épidermique de toute façon du partage amoureux avec le partenaire, ça permet de comprendre comment on n'arrive pas à se parler. Parce que si on n'était pas encombré de sa propre inquiétude à l'idée d'être au second plan, on pourrait tout simplement dire qu'on aime son chien, que comment on peut faire pour qu'il soit là, en quoi un chien pourrait empêcher d'ailleurs de passer un week-end, en quoi, vous voyez, ça pourrait tout à fait apaiser les choses. Alors après, si on est dans un truc complètement obsessionnel où le chien est là et on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas...
Oui, si ça perturbe la vie du couple, il y a un problème quand même.
Voilà, alors si de toute façon, et le chien devient tyrannique, hein, parce que c'est comme un enfant, plus vous donnez de cet espace, plus le chien prend cet espace et devient complètement tyrannisant pour la relation et pour le maître lui-même d'ailleurs.
Du coup, pas d'ultimatum, genre c'est moi ou le chien, on ne fait pas de menace en disant il va falloir faire un choix, comme si on faisait un choix avec une maîtresse ou avec quelqu'un d'autre.
Je crois que dans un premier temps, il faut d'abord se dire qu'est-ce qui me dérange moi dans l'idée de partage en général. Une fois que je suis apaisée quant à mon idée à moi, je peux aller vers l'autre en disant écoute, moi je t'aime follement, je suis très touchée de voir l'affection que tu as pour ton animal, ce qui d'ailleurs me fait projeter que si on avait des enfants ensemble, tu serais un papa formidable. Mais il faut qu'on puisse arriver à préserver une relation et que ça ne soit pas l'animal qui guide et qui décide de la relation. Sinon, imagine-tu un seul instant, si nous avions des enfants ensemble et que je faisais de même, ça mettrait notre relation en péril. Le faire dans ce sens-là permet une projection sur ce qui est à l'œuvre. Et s'il réagit bien, il va trouver peut-être matière à assouplir les choses. S'il réagit mal, je pense qu'elle saura que de toute façon, il n'y a guère de place dans cette relation, bien évidemment.
Et peut-être qu'il y a des règles quand même à ne pas franchir. Le chien dans le lit conjugal, c'est peut-être pas une bonne idée.
Non, ce n'est pas une bonne idée. Oui. En tout cas,
c'est Catherine pour ça. C'est une mauvaise idée.
Non, c'est une mauvaise idée. Non, c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, je pense que voilà, on a droit d'avoir des fantasmes tous, évidemment très très particuliers. Mais à un moment donné, la relation se fait entre deux personnes. Donc, effectivement, ce chien n'a pas lieu d'être là pour lui d'ailleurs aussi, et pour le couple. Et cela va sans dire. Et pour Jimmy, on est d'accord. Oui, non, il n'a pas sa place. On est d'accord.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux, comme toujours. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël que vous retrouvez. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous restez avec nous pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire.
Il y a de l'hémoglobine là. Là, il va y avoir du sang.
C'est vrai
là.
C'est une édition un petit peu particulière.
Oui, oui, on aime bien là. C'est la suite de Christophe Ondelat, des tueurs en série.
Les plus grands tueurs en série de l'histoire, vraiment. On peut le dire, avec Elisabeth Báthory.
Oui, la comtesse sanglante.
Oui, qui était bien hardcore. Landru, le plus célèbre, la star des tueurs
pas
en série.
Pas un féministe, vous voyez. Pas un grand féministe.
Pas vraiment, il était avant MeToo, mais alors vraiment, vraiment, vraiment largement avant.
Et moi, vous, j'ai pas compris. Oui. Pourquoi vous avez choisi.
Vous allez vite comprendre, parce qu'on parle de tueurs en série contemporains aussi, des tueurs en série qui ont fait beaucoup de mal. Et là, en l'occurrence, à la chanson française, ils courent toujours en plus. Hein. Les Kids United, ils se font appeler.
Oh,
terrible, terrible, c'est sanglant.
Merci à tous les deux et très bonne émission à vous.